Libre à vous.
L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bibliothèque et liberté numérique, c'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique Les Humeurs de J, sur la fin de l'Open Bar Microsoft au ministère des Armées. Et aussi la chronique de Marie-Odile Morandi sur logiciel libre et commun numérique. Nous parlerons de tout ça dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavoue.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles, et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 18 octobre 2022, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, Frédéric Couchet. Salut Fred.
Salut Étienne, bonne émission.
Nous saluons également Karim qui suivait en direct la manifestation parisienne pour les salaires et contre les réquisitions dans les raffineries pour Radio Cause Commune. Et salut à toute personne qui lutte pour des conditions de vie dignes. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
Cause Commune, la voix des possibles. 93.1 FM et en DAB+, en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
Alors pour notre premier sujet, première chronique, nous allons écouter les humeurs de J sur le thème, si je ne me trompe pas, de la fin de l'open bar pour Microsoft au ministère des Armées. Salut J, tu es avec nous ?
Oui, je suis là, salut Étienne.
Eh bien, à toi la parole.
Alors, salut à toi, public de Libre à vous. Si tu me suis sur les internets, tu sais sans doute que je suis parfois d'humeur ronchonne et que j'ai une certaine tendance à m'énerver, notamment quand on parle du traitement du numérique par l'État en France. Eh bien, pour une fois que j'ai quelque chose de positif à en dire, ne boudons pas notre plaisir. Oui, c'est vrai, on l'a appris il y a peu, c'est la fin de l'accord dit « open bar » entre Microsoft et le ministère des Armées. Une nouvelle qui me donne envie de citer le groupe Blur. Wouhou ! Bon, pardon, je sais que la chanson n'est pas sous licence libre, mais disons que j'utilise mon droit de courte citation. Bon alors, cher public de Libre à vous, si tu ignores ce qu'était cet accord « open bar », je vais te l'expliquer. En temps normal, je ne saute pas de joie quand on m'annonce la fin de l'open bar, mais c'est sans doute un reste de mes années d'étudiant. Non, là, ce qui me fait plaisir, c'est que c'est la fin d'un accord open bar entre Microsoft et notre ministère de la Défense. Enfin des armées. Moi j'étais resté à la Défense, mais il paraît que c'est le ministère des armées maintenant. Bref, cet accord, en gros, ça faisait de Microsoft le fournisseur de logiciels principal de la Défense nationale française. Microsoft étant une multinationale états-unienne soumise aux lois états-uniennes, ça pose quand même quelques questions en termes d'indépendance technologique et même de sécurité sur la confidentialité de nos données. Si on a inventé l'expression « secret défense », c'est bien que c'est un sujet un poil sensible. Personnellement, j'avais découvert cet accord, comme pas mal d'autres gens, hein, je pense, grâce à une émission Cache Investigation en octobre 2016. Émission au cours de laquelle Élise Lucet avait interviewé le vice-amiral Arnaud Coustillière sur les problèmes évidents que posait cet accord en termes de sécurité. Accroche-toi, je te lis sa réponse. En termes de sécurité, moi, personnellement, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Je m'en fous de ce débat-là. Pour moi, ça, c'est un débat d'informaticien. Alors cette réponse, en gros, on pourrait la traduire par « Cette question, c'est une question de gens qui connaissent le sujet, moi qui n'y connais rien, je ne vois vraiment pas le problème. » Eh ben c'est super. Voilà, quand t'entends ça, tu comprends pourquoi on préfère quand l'armée s'appelle la Grande Muette. Hein. Bon après, soyons indulgents avec monsieur le vice-amiral, cette déclaration date de 2016, seulement 3 ans après les révélations d'Edward Snowden sur le programme de surveillance globale de la NSA. Laissons-lui le temps d'intégrer la nouvelle. Oui, parce que je disais que Microsoft était une multinationale états-unienne. Petit aparté d'ailleurs, je dis états-unienne et pas américaine, parce que j'ai une pote brésilienne qui aime pas trop qu'on confonde Amérique et États-Unis. Mais bon. Quand je remarquais que Microsoft était une multinationale états-unienne, c'était pas pour le plaisir de cracher sur les États-Unis gratuitement. Même si ça m'arrive, hein, mais bon. Non, si les gens comme moi s'indignaient de cet accord, c'est parce qu'on sait que les services de renseignement états-uniens espionnent absolument tout ce qu'ils peuvent, notamment en s'appuyant sur des logiciels privateurs comme ceux de Microsoft. On ne le soupçonne pas, on ne le devine pas, on le sait. Je veux dire, refuser d'utiliser du Microsoft dans des domaines aussi sensibles que l'armée, c'est pas de la paranoïa, ça devrait juste être du bon sens. Alors je sais, j'avais dit que j'allais être de bonne humeur et j'ai quand même fini par grogner, pardon. Mais c'est vrai, la fin de cet accord entre Microsoft et le ministère des Armées, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, après, ne tombons pas dans les excès d'optimisme non plus. On n'en est pas encore à voir le ministre des Armées venir danser en sarouel sur de la musique Creative Commons aux apéros de l'April. Non, La seule chose que ça veut dire, c'est que pour acquérir des logiciels, le ministère devra passer par l'UGAP, l'Union des groupements d'achat public. L'UGAP qui n'est pas spécialement pro-logiciel propriétaire, mais pas spécialement pro-logiciel libre non plus. Rien ne s'oppose donc à ce qu'on continue à avoir au ministère des Armées du logiciel fermé avec porte d'accès privilégiée pour la NSA. Car c'est là que le bât blesse. En mettant en concurrence logiciel libre et logiciel propriétaire sur un pied d'égalité, en se mettant dans la position du simple consommateur, bah, y a de fortes chances que le logiciel propriétaire gagne. Pas qu'il soit intrinsèquement meilleur, hein. Encore qu'on n'est quand même plus à la grande époque de Windows 95 et de ses écrans bleus de la mort. Simplement, deux grosses boîtes comme Microsoft ont un pouvoir immense, avec des budgets de communication et de lobbying colossaux, face auxquels même des boîtes comme Red Hat ou Canonical, des boîtes qui fournissent des distributions GNU Linux professionnelles, face auxquelles ces boîtes, donc, ont du mal à rivaliser. C'est que, pour avoir du sens, le choix du logiciel libre devrait se faire non pas comme simple consommateur, mais comme acteur, partie prenante de son développement. Ainsi, en embauchant des équipes de développement, les ministères français pourraient adapter et améliorer les logiciels libres existants, en profitant d'un code propre et sans logiciel espion. Ils pourraient ainsi contribuer à ces mêmes logiciels, en stimulant ainsi leur activité, provoquant d'autres contributions dans un grand cercle vertueux. Le tout en payant des gens qui travailleraient et paieraient leurs impôts en France, ce qui ne gâcherait rien. Ah, mais on me fait signe dans l'oreillette que ces gens s'appelleraient alors des fonctionnaires et que ça, malheureusement, c'est le mal incarné. Non, les fonctionnaires, c'est un coût, une dépense à réduire, alors qu'un logiciel états-unien payé à prix d'or avec de l'argent public, c'est bien, c'est flexible, c'est moderne, vous ne pouvez pas comprendre. Bref, bifurquer vers du logiciel libre pour les outils numériques des différents ministères, ça ne reviendrait pas à simplement changer de rayon à la FNAC. Ça impliquerait une politique qui verrait un peu plus loin que le bout du libre marché et qui arrêterait de considérer que la puissance publique doit tout externaliser et surtout ne posséder aucune compétence. Autant dire qu'avec un gouvernement néolibéral aux manettes, on aura plus vite fait de monter nos propres alternatives libres à ces différents ministères. Mais je vais m'arrêter là quand on va finir par me soupçonner de sédition, et ce serait quand même dommage de me faire interdire d'antenne après seulement deux chroniques. Alors je vous laisse, je vous souhaite une bonne émission et je vous dis salut.
Eh bien merci Guy pour cette chronique de très bonne humeur. Effectivement, je te dis au mois prochain pour une prochaine chronique.
Ouais, au mois prochain, salut.
Salut Guy. Et nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons de bibliothèque et liberté informatique, le sujet principal de notre émission aujourd'hui. Nous commençons à écouter Crime Time par Leonard Richter. Leonard Richter compose de la musique cinématographique, c'est-à-dire pour les films. Nous avons découvert ce morceau grâce à l'équipe du site Au bout du fil. Un extrait de la présentation par Alice Au bout du fil nous dit donc « Composer une bonne musique de film est loin d'être évident. » La musique d'une bande originale respecte une codification bien précise. C'est ainsi qu'elle est capable de déclencher certaines émotions fortes chez le spectateur, mais aussi de donner de la profondeur à l'intrigue et de renforcer l'ambiance du film. Selon moi, Alice au bout du fil donc, on reconnaît donc une bonne musique de film à son ambiance et aux émotions qu'elle peut provoquer chez l'auditeur. Dans Crime Time, le compositeur allemand Leonard Richter a réussi ce double pari. Sa musique est non seulement auréolée d'une ambiance bien à elle, mais en plus elle transmet une montagne russe d'émotions chez l'auditeur. Le tout sans images ni paroles.
Cause commune 93.1.
Nous venons d'écouter Crime Time par Leonard Richter, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY 3.0. L'occasion pour moi de rappeler que toutes nos pauses musicales sont sous des licences libres qui permettent de les partager librement avec vos proches, de les télécharger parfaitement légalement, de les remixer, y compris pour des usages commerciaux. Ce sont des licences type Creative Commons Attribution, CC BY, Creative Commons Partage dans les mêmes conditions, CC BY SA ou encore licence Art Libre. La licence Creative Commons Attribution CC BY, donc celle sous laquelle cette musique est publiée, permet la réutilisation, la modification, la diffusion, le partage de cette musique pour toute utilisation, y compris commerciale, à condition de créditer l'artiste, c'est-à-dire le nom, la source du fichier original, d'indiquer la licence et d'indiquer si des modifications ont été effectuées. Et pour retrouver la présentation complète de l'artiste sur le site auboutdufil.com, dont je vous ai lu un extrait, vous pouvez bien sûr la retrouver sur le site libreavou.org/156, le numéro de cette édition.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Passons maintenant à notre sujet suivant. Nous allons poursuivre par notre sujet principal qui porte sur le thème bibliothèque et liberté numérique. Avec Régine Auray, responsable des missions culture et diffusion des savoirs et accessibilité pour tous pour les bibliothèques universitaires de Nantes Université, co-organisatrice du festival Les Journées des Libertés Numériques, et Chloé Lélic, responsable de la bibliothèque et déléguée à la protection des données à l'INSA Rennes. Je profite de ce moment de l'émission pour remercier ma collègue Isabella qui a préparé cette émission et en particulier qui a organisé ce sujet long. Elle n'a malheureusement pas pu être là pour animer l'échange aujourd'hui et je la remplacerai donc du mieux que je peux. Je vous rappelle que vous pouvez participer à notre échange sur le salon web dédié à l'émission sur le site causecommune.fm, bouton de chat. Alors bonjour Chloé Lélic, est-ce que tu es avec nous?
Oui, bonjour.
Bonjour Régine Auray.
Vous m'entendez bien?
Bah très bien. La régie me fait signe que oui. Régine Auray, donc tu es en ligne?
Oui, je suis bien là avec vous. Bonjour.
Super. Eh bien, merci déjà à toutes les deux de vous être rendues disponibles pour cet échange qui m'a l'air en tout cas très intéressant. Ce que j'ai découvert en fait hier quand ma collègue m'a demandé si je pouvais la remplacer et en creusant le sujet, je comprends pourquoi elle s'est elle-même penchée sur la question. Je vous propose de commencer de manière très classique par une présentation personnelle de vos parcours. Et qui êtes-vous donc? Régine Auray. Peut-être qu'on peut commencer par toi, Régine.
Oui. Donc, je suis conservateur de bibliothèque à la Bibliothèque universitaire de Nantes. J'ai commencé mon parcours très classiquement en faisant des études à l'université, en passant des concours de bibliothèque. J'étais bibliothécaire adjointe et ensuite, par les concours, je suis devenue conservateur. J'ai travaillé un petit peu à Paris, un petit peu en Martinique et me voici à Nantes.
Chloé?
Eh bien, du coup, je redis bonjour et bonjour à Régine, parce que, voilà.
Bonjour Chloé, enchantée.
Alors moi, je suis bibliothécaire, responsable de la bibliothèque à l'INSA de Rennes, qui est une école d'ingénieurs publics. Et moi, j'ai un peu comme Régine, un parcours universitaire. Après avoir fait une licence d'infocom, j'ai fait une licence pour être bibliothécaire, une licence métier du livre. Et je suis devenue responsable de la bibliothèque. Et je suis aussi déléguée à la protection des données dans le cadre du RGPD. Et ça, tu l'as dit tout à l'heure en me présentant. Donc ça fait partie des missions que j'ai en plus de mon poste de responsable.
Est-ce que vous pourriez peut-être nous présenter déjà ce qu'est une bibliothèque et quelles sont les spécificités d'une bibliothèque universitaire? Chloé, puisque tu avais la parole.
Alors, une bibliothèque, j'aurais jamais pensé que j'aurais dû définir c'était quoi une bibliothèque, mais bon, c'est un lieu déjà, c'est des gens, donc un lieu où on peut venir travailler, un lieu où on peut venir consulter de la documentation sous toutes ses formes, c'est un lieu où on peut... se connecter à l'information sous toutes ses formes. Donc je vais être très large, dans une acceptation très large de ce que c'est que l'information. Donc on peut trouver des ordinateurs, on peut trouver des livres, on peut trouver des DVD, des CD en fonction de là où l'information est stockée. Mais c'est aussi un lieu où, comme je disais, où il y a des gens, donc des bibliothécaires, qui est aussi nous en tout cas dans une bibliothèque universitaire, on a des étudiants qui viennent travailler, qui viennent consulter notre documentation. On a des enseignants-chercheurs. Et puis c'est aussi un lieu où il se passe des choses en fait. Il y a des événements dans des bibliothèques et ce que nous on appelle dans notre jargon l'action culturelle, mais en fait qui est le fait d'organiser des événements en lien avec nos collections, en lien avec nos publics et de faire un peu du lien entre tout ça. Et peut-être que Régine peut compléter. avec ce que j'ai oublié.
Tu as dit déjà l'essentiel. Dans les bibliothèques universitaires, qui sont des bibliothèques publiques ouvertes à tous, elles ne sont pas réservées uniquement aux gens qui composent les communautés universitaires, elles sont ouvertes à toute personne intéressée. Donc ça, il faut le dire, parce que souvent les gens l'ignorent. On accueille vraiment tout le monde comme une bibliothèque municipale. Et effectivement, c'est un lieu où il peut se passer plein de choses. Classiquement, on s'y installe, on regarde la documentation, mais on peut très bien aussi dormir, on peut très bien aussi jouer, si cela ne dérange pas les autres. On peut faire son travail dans son coin ou en groupe. On peut admirer une exposition, on peut participer à un atelier. Voilà, il se passe plein de choses. Donc, effectivement, il y a les étudiants, les étudiantes, mais aussi le personnel de l'université, hein. Les personnes administratives, informaticiennes, techniciennes, etc. Et puis les enseignants-chercheurs et les personnes extérieures.
Oui, c'est pas seulement c'est des lieux de vie, c'est pas seulement effectivement des endroits où on vient consommer, j'utilise un peu à dessein ce terme, consommer de la documentation, on vient vraiment se échanger aussi, rencontrer d'autres personnes. Enfin, j'ai des souvenirs aussi justement quand j'étais étudiant de la bibliothèque universitaire, c'est les endroits de calme, mais aussi justement d'échange et de conversation et de vie, quoi.
Exactement. De plus en plus, on essaye de modifier les espaces des bibliothèques universitaires pour qu'elles comprennent des espaces de rencontre et de travail en commun. Donc c'est ce qu'on appelle des tiers-lieux. Les tiers-lieux, il y en a plein maintenant dans les villes, dans les autres organismes. Et ça permet justement d'approcher l'univers des bibliothèques de façon beaucoup plus détendue et surtout de s'y sentir presque comme chez soi. Donc ça favorise l'échange, ça favorise le bien-être.
Je voulais juste rajouter quelque chose sur le fait que la bibliothèque, c'est un lieu physique, c'est aussi, et là c'est la partie immergée de l'iceberg, parce qu'on a l'impression que justement c'est un lieu, juste un lieu physique, c'est aussi un lieu, j'ai envie de dire, numérique, enfin, en fait c'est aussi beaucoup de contenu disponible en ligne, c'est tout un travail de mise à disposition de contenu en ligne via des portails, des sites internet, etc. Et ça c'est un peu une partie du travail qui est souvent très peu connu du grand public, mais qui nous prend beaucoup de temps aussi. Donc il y a ce lieu qu'on essaye de faire évoluer vers quelque chose de plus accueillant, etc. Et puis il y a ce lieu en ligne aussi qu'on veut accueillant et pour faciliter l'accès à la documentation en ligne. C'est pour compléter le tableau que je rajoute ça.
Et du coup, ça m'inspire une question, c'est-à-dire qu'effectivement, Libre à vous est une mission, puis l'April est une association dédiée au logiciel libre, et on sait qu'au cœur de l'éthique du logiciel libre, il y a cette idée de la libre circulation des savoirs, du partage de la connaissance. Et j'imagine qu'elle est assez centrale dans les missions d'une bibliothèque publique et a priori encore plus d'une bibliothèque universitaire. Qu'est-ce que ça a comme importance pour vous, cette idée du libre partage des connaissances?
Je dirais que c'est une des missions fondamentales des bibliothèques depuis toujours. C'est de faciliter en fait l'accès du plus grand nombre à l'information, parce qu'on sait que ça contribue à une forme d'émancipation et de liberté pour les personnes qui ont l'information, qui sont informées, qui peuvent donc avoir leur libre arbitre, faire des choix et puis se créer aussi une conscience citoyenne. Donc pour moi c'est vraiment ça, c'est faciliter l'accès à l'information pour tous. Et ensuite, les gens sont libres d'en faire ce qu'ils en veulent.
Oui, je suis complètement d'accord. Enfin, c'est la base de notre métier, c'est-à-dire que la question du libre partage et du libre accès à l'information, c'est essentiel dans une démocratie, parce qu'on a envie que ce soit une démocratie. Et c'est pour ça que les bibliothèques sont des lieux très importants politiquement et stratégiquement pour plein de communautés, pour plein de personnes, et y compris dans l'enseignement supérieur où on est quand même plus sur des missions de soutien à la formation, de soutien à la recherche, mais c'est aussi des lieux où se crée du partage en action, quoi. C'est des lieux importants pour ça.
Et du coup, on sait que, d'ailleurs, tu as commencé à poser cet aspect de la problématique, Chloé, puisque tu disais, effectivement, ce n'est pas qu'un lieu physique, mais aussi un accès, par les outils technologiques, par les outils informatiques. On imagine bien que dans une bibliothèque, l'outil informatique a une place donc assez centrale. Notamment, en plus, j'imagine que ça a pu permettre en termes d'archivage et puis d'accès peut-être à des ressources qui n'étaient pas encore physiquement disponible. Donc, quelle est peut-être l'évolution un petit peu de cette importance de l'outil informatique, et là-dedans, quelle est la place du logiciel libre, puisqu'on parle de libre parcours, de libre accès à la connaissance. La connaissance informatique est elle-même une connaissance importante. Que pouvez-vous nous dire sur ces questions?
Alors, sur la question de l'évolution, ben, en fait, nous, les bibliothèques, on est en perpétuelle évolution. Ce que je disais tout à l'heure, dans ce que je présentais comme étant une bibliothèque, l'information, là où elle est, nous, notre objectif, c'est d'y donner accès. Et donc, pas que via les livres. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nos étudiants, ils font des recherches sur Google. Et donc, notre posture, c'est une posture d'accompagnement par rapport à ça. C'est une posture de formation aussi, d'accompagnement. C'est une posture de comment on va aider à réfléchir à c'est quoi ces outils comme Google qui nous permettent d'avoir accès à de l'information et en même temps qui récupèrent beaucoup de données sur nous, sur nos vies et qui derrière peut-être nous empêchent l'émancipation justement. Et donc il y a aussi cette question de l'accès à la documentation électronique par des outils qui parfois ne sont pas libres. On a du logiciel libre en bibliothèque, mais on a aussi beaucoup de logiciels propriétaires et des accès à des bases de données via des éditeurs qui peuvent nous bloquer aussi à des moments des accès. Enfin, c'est un business model à comprendre et je ne sais pas si je peux l'expliquer maintenant, mais en tout cas pour dire que aujourd'hui on ne peut pas faire sans quoi. Peut-être que Régine veut compléter du coup, parce que je suis un peu.
Je vais essayer. Effectivement, on propose beaucoup d'outils et de ressources en ligne maintenant. Nous sommes contraints par les contrats avec les éditeurs de choisir des formes d'accès propriétaires, ça c'est clair. On essaye de se battre pour aussi proposer d'autres formes d'outils ou d'accès de plus en plus libres. Je vais dire ça comme ça. Ce n'est pas évident. D'un autre côté, nous utilisons beaucoup d'outils sur le plan professionnel, nous, les bibliothécaires, qui sont libres. Donc, je citerai tout simplement la suite bureautique LibreOffice ou des systèmes d'exploitation comme Linux. Des outils aussi que nous mettons à disposition des publics comme Zotero, qui permet de créer des bibliographies assez facilement. Bientôt à Nantes, nous allons nous équiper d'un système de gestion de bibliothèque libre qui s'appelle Folio. Évidemment, nous utilisons la messagerie Thunderbird, le navigateur Mozilla Firefox, les outils Framasoft. Nous pouvons utiliser aussi des logiciels de traitement ou d'édition comme Inkscape ou GIMP. Des logiciels d'édition aussi comme LaTeX ou des serveurs de partage de fichiers comme Samba, Nextcloud. Voilà, on essaye quand même, et on est plutôt dans cette philosophie-là, d'utiliser des outils libres qui en général sont très bien faits et qui permettent aussi, ça c'est très important, d'avoir un niveau de sécurité important. Les directions des systèmes d'information et du numérique dans les universités sont très sensibles à ça. Et puis maintenant, on demande aussi des outils qui proposent une certaine sobriété numérique. Donc on essaye de faire des choix entre des logiciels libres et propriétaires, mais on arrive le plus souvent à choisir du libre.
Chloé, tu fais le même constat à l'INSA de Rennes ?
Effectivement, alors tous les logiciels qu'a cité Régine, etc., et la posture, enfin, je pense qu'on a la même, c'est-à-dire que nous, on fournit vraiment tout ce qui est possible au logiciel libre sur les postes de la bibliothèque. Et nous, les personnels, on a cette culture du libre au maximum. On donne aussi accès au logiciel Tor, enfin au Tor Browser. C'est vrai que Régine l'a pas cité, mais c'est partie aussi des outils qu'on met à disposition pour protéger sa vie privée quand on fait des recherches sur le web. Mais du coup, derrière, moi, ce que je constate, et là, c'est en tant que DPO, en tant que délégué à la protection des données, c'est quand même qu'il y a beaucoup d'outils libres qui commencent à être institutionnalisés via notamment Renata, qui est le fournisseur d'accès à Internet de l'enseignement supérieur, si je résume. Et ça ne veut pas dire que derrière, nous, dans les établissements, ça arrive jusque... Enfin, les services nous parviennent. Ce qui se passe, c'est qu'on a aussi beaucoup de services comme Zoom ou Teams, Microsoft Teams. La suite Office de Microsoft, elle est aussi très présente dans les habitudes des enseignants-chercheurs. Quand je parle de Zoom, c'est parce qu'il y a vraiment une vague de Zoom entre guillemets, pendant le Covid, enfin, ça, je pense que tout le monde l'a vécu, mais nous, c'est vraiment devenu quelque chose de très habituel, quoi, et c'est dur de leur proposer autre chose, parce que il y a des enseignants-chercheurs qui se sont habitués à utiliser ces outils, et donc quand vient le moment de réfléchir à quel outil de visio on va prendre, et ben on va prendre Zoom. Et donc moi, en tant que DPO, mon travail, c'est aussi d'alerter sur les problématiques de conformité au RGPD, donc dire que ces outils ne respectent pas à des endroits la législation européenne, sur la protection des données. Et en fait, l'usage souvent surpasse ces alertes, quoi. Dès que je me retrouve aussi à être d'un côté à promouvoir le libre et de l'autre à être obligé quelque part d'utiliser des outils propriétaires. Donc c'est très, très ambivalent comme posture, mais... Donc je vois dans le chat qu'il y a quelqu'un qui parle d'évangélisation auprès du public. On fait pas d'évangélisation, hein. On fait de la facilitation, on accompagne, on promeut des outils, mais c'est pas de l'évangélisation en tant que telle, quoi. C'est déjà beau.
Oui, c'est sûr qu'on évolue tous aussi dans des contextes sur lesquels on a une maîtrise forcément relative. Mais je rencontre qu'on part du principe, effectivement, que vous êtes toutes les deux convaincues par le logiciel libre, alors que ce n'est pas forcément quelque chose qui... c'est des cheminements politiques qui se construisent. Du coup, je pense que ce serait intéressant peut-être de savoir comment votre découverte, quelle est votre découverte du logiciel libre, comment en êtes-vous venue à vous poser les questions que vous avez pu et les enjeux que vous avez pu déjà évoquer, Chloé?
Alors moi, le logiciel libre, je suis arrivée à la fac. Moi, j'ai fait mes études à Rennes 2 et à l'époque, on distribuait des logiciels libres sur des clés USB ou sur des CD. Je sais plus si c'était des CD-ROM ou des clés USB. Et du coup, c'est comme ça que j'ai pu avoir accès à plein de logiciels d'un coup sur mon ordinateur et tout un logiciel libre. Donc ça, c'était mon premier contact et c'était pas encore politisé, quoi. C'était surtout parce que économiquement, c'était intéressant. C'était gratuit, en tout cas dans cet usage-là. Et derrière, moi, c'est quelque chose que j'ai construit au fur et à mesure de mon travail en bibliothèque notamment. Question de justement du lien entre nous, notre documentation et comment on y donne accès, etc. Et la question du logiciel libre, elle est venue la question de pouvoir lire le code source d'un logiciel, de pouvoir le comprendre, même si je le comprends pas, je connais des gens qui peuvent le comprendre, je sais qu'on peut le modifier, l'adapter. Et donc moi, c'était dans une optique de protection de la vie privée, c'est dans ce cadre-là que je m'y suis intéressée. Et derrière, j'ai organisé des événements en lien avec ça, dans ma bibliothèque. Mais c'est vrai que du coup, au-delà de l'aspect protection de la vie privée, l'aspect s'approprier en fait des savoirs et les adapter à notre usage, en sortant d'une logique marchande aussi à des endroits, c'était important pour moi. J'explique pas trop tout mon cheminement, mais voilà, j'ai eu tout un cheminement autour de ça.
C'est difficile, j'imagine, de résumer des années de cheminement en quelques minutes, mais en tout cas, c'était très clair, merci. Régine ?
Alors, moi, j'ai découvert les logiciels libres dans mon milieu de travail, par les informaticiens des bibliothèques, notamment, qui ont commencé à nous parler de ces outils et à nous expliquer pourquoi ils existaient, parce que moi, je n'avais aucune idée de l'existence d'un milieu parallèle. Et puis, nous avons des collègues aussi, comme Chloé, hein, qui sont sensibilisés au logiciel libre depuis très très longtemps, qui s'y intéressent, donc qui nous en ont parlé aussi. Moi, je n'étais pas spécialement attirée par ces outils, que j'avais une idée un petit peu préconçue en disant que c'était peut-être du bricolage et moins intéressant qu'un logiciel propriétaire au début. Et puis finalement, on a commencé à nous installer ces outils, j'ai trouvé qu'ils étaient très bien, j'ai trouvé la philosophie vraiment intéressante. C'était dans une période aussi où on s'interrogeait sur tout ça, effectivement. C'était le boom aussi de l'Internet et on commençait à voir les biais de tout ça. Voilà, et finalement, avec le temps, les universités se sont intéressées à ces outils, donc sont plutôt, on va dire, on nous pousse un petit peu à les utiliser. Et puis, j'ai découvert aussi sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche une liste de logiciels libres recommandés pour les établissements. Donc tout ça est venu pour moi assez lentement, on va dire, mais sûrement, puisque maintenant j'apprécie ces outils et mes camarades bibliothécaires les utilisent aussi volontiers.
Du coup, ça m'évoque une fameuse phrase de l'association Framasoft que vous avez évoquée, qui est « la route est longue, mais la voie est libre ». Et je pense que c'est la direction qu'on prend et c'est la construction de cheminement qui est importante, pas d'y arriver à toute vitesse. Et voilà, puis c'est un enjeu collectif. D'ailleurs, moi, je trouvais intéressant ce que disait Chloé, parce que moi, pareil, je ne suis pas capable de lire du code, mais pour moi, ce n'est pas un enjeu individuel, mais bien une sorte de, un enjeu collectif, d'avoir un contrôle collectif, populaire, des outils informatiques que nous utilisons. Et je pense que l'enjeu est bien là. Alors du coup, vous êtes toutes les deux sensibilisées avec vos cheminements respectifs. Est-ce que vous vous considérez un peu comme des exceptions dans votre métier? Est-ce que c'est au contraire, parmi les bibliothèques, les bibliothécaires, une conviction qui est plutôt partagée? Vous parliez, Régine, tu disais que tu as vu des collègues comme Chloé qui auraient pu t'aider à parcourir ce cheminement. Donc j'imagine qu'il y a aussi une communauté des bibliothécaires, notamment universitaires.
Oui, alors je ne suis pas une exception. Vraiment, les bibliothécaires sont convaincus maintenant par ces outils. On a aussi un groupe d'informaticiens en bibliothèque universitaire qui œuvre pour que soit déployé ce genre d'outils à tous les niveaux. Et donc, on suit le mouvement. Il n'y a pas de problème. Et en plus, c'est corrélé avec notre besoin, notre ressenti d'amener aussi tout le monde à l'information de manière libre, gratuite, ouverte. Donc c'est vraiment dans notre philosophie de bibliothécaire.
Oui, je suis assez d'accord. C'est assez partagé dans le métier. Je mettrais entre guillemets un petit bémol. Là, on parle des bibliothèques universitaires, parce que nous sommes bibliothécaires dans l'université, mais il y a aussi des bibliothèques municipales, etc. Et on fait à peu près le même métier. Hein. Tout ce dont on parle depuis le début, je pense que des bibliothécaires dans des collectivités territoriales se reconnaîtraient en grande partie. Je pense que nous, on a de la chance justement d'avoir des services informatiques, des DSI qui nous soutiennent et qui ont vraiment, enfin voilà, qui ont aussi cette culture du libre. En tout cas, j'ai l'impression. Moi, c'est ce que je constate depuis que j'ai commencé à travailler dans l'enseignement supérieur. Et je pense que dans des collectivités territoriales, c'est un peu différent. Il y aurait peut-être un autre son de cloche. Les bibliothécaires seraient peut-être un peu frustrés ou bloqués du fait de ne pas être soutenus en termes informatiques, quoi, par justement des personnes voilà, de la ville. Donc je pense que ça dépend vraiment des équipes sur place et dans le milieu de la recherche, enfin dans l'enseignement supérieur et la recherche en particulier, la question du libre accès, elle est quand même très présente. Enfin, on parlait d'archivage tout à l'heure, enfin, je crois que c'est toi qui en parlais, Étienne, mais du coup la question de comment aussi on valorise l'archivage dans des archives ouvertes, on parle de sciences ouvertes, il y a beaucoup de choses autour de l'ouverture, donc c'est aussi quelque chose qui s'implante à plein d'endroits de l'université. Et donc la bibliothèque, évidemment, c'est un lieu où ça germe bien, quoi.
Alors de mémoire, mais je serais incapable de me souvenir du numéro de l'émission, mais on avait fait une émission justement sur les sciences ouvertes. L'échange était passionnant et on voit à quel point l'importance des enjeux qui s'attachent aux questions là, que tu soulevais. Alors tout à l'heure, tu réagissais, Chloé, au chat où Marie-Odile parlait d'évangélisation et tu disais que c'était pas tout à fait effectivement le bon terme. Mais du coup, comment vous percevez le rôle des bibliothèques dans la sensibilisation aux enjeux de l'informatique libre ? Et puis les autres enjeux qui s'attachent, c'est-à-dire voilà, effectivement du partage de l'information, du libre accès, etc. Régine, Chloé.
Vas-y Régine.
Eh bien, c'est une grande question. On essaye de trouver tous les moyens possibles de faire une médiation sur ce sujet-là. Par exemple, dans les formations à la recherche documentaire que nous proposons aux étudiants tous les ans, hein, chaque année, on fait beaucoup de séances de formation sur tous les sujets, avec l'aide des enseignants-chercheurs aussi. On parle toujours des outils libres. Par exemple, Zotero, comme je le citais tout à l'heure, c'est le pendant de EndNote et on l'utilise beaucoup et les étudiants le découvrent hein, la plupart du temps et sont assez intéressants, ils sont assez intéressés. Donc il y a ce moyen de médiation par les formations que nous pourrons faire. Il y a aussi la médiation qu'on peut faire au moment de l'accueil du public dans une bibliothèque. Nous faisons de l'accueil, de l'orientation, du renseignement. Et donc à ces deux occasions-là, en fonction des questions qui nous sont posées, on peut aussi orienter vers nos postes informatiques ou vers notre site web, vers d'autres gisements documentaires et autres. Et à chaque fois, on précise quand il y a des outils libres qui sont à disposition. On peut aider aussi ponctuellement une personne à installer quelque chose sur ses outils numériques. Et puis, il y a plein d'autres formes de médiation possibles. Hein. On peut le faire aussi durant des animations culturelles hein, dans les bibliothèques ou à l'extérieur. Et puis, on en parlera certainement au cours de grands événements comme ont été les festivals des libertés numériques hein, que Chloé a organisé pendant pas mal d'années. Et puis aussi pendant les journées des libertés numériques qui se passent maintenant à Nantes.
Oui, je pense qu'on consacrera même la deuxième partie de notre échange à ces deux illustrations de ce qu'il est possible de faire. Et puis, c'était vraiment des événements qui sont devenus majeurs pour les libertés numériques. Chloé, du coup, sur cette question un peu de comment tu perçois ton rôle et le rôle des bibliothèques dans la sensibilisation aux enjeux de l'informatique libre.
Bah, moi, je pense qu'on est au bon endroit, en fait, pour faire ça. Et ça, c'est quelque chose que les militants pour les logiciels libres, les militants libristes ont découvert. Enfin, moi, quand j'ai travaillé sur le Festival des libertés numériques, dont on parlera peut-être après, du coup, j'ai rencontré beaucoup de militants libristes à cette occasion en organisant ces événements. Et je vois bien que la découverte de ce que c'est qu'une bibliothèque, c'est toujours une sorte de choc pour certaines personnes qui ne pensaient pas trouver des gens comme nous dedans. Avec des compétences de formation, puisque on est bibliothécaire, on est beaucoup à être formateur, formatrice. Et donc, aussi avec une appétence pour ces outils, enfin des outils dont on parlait de Zotero, mais aussi le fait de transmettre, enfin comment dire, on est quand même assez au fait des innovations pédagogiques, on se forme à former, on essaye d'innover, de faire des jeux. Je parlais de science ouverte, récemment j'ai animé un escape game sur la science ouverte à la bibliothèque et ça paraît incroyable quand on ne connaît pas les bibliothèques, mais en fait, ça fait partie de notre quotidien. Donc on forme sous toutes ses formes, dès que c'est possible, auprès d'étudiants. Nous, ici, on a organisé des install-parties. On a... Enfin, c'est aussi, comme le dit Régine, à l'accueil, c'est une posture en fait globale, générale, en fait. On est tout le temps là-dedans. Il y a aussi dans les collections. Et ce qu'on donne à manger, moi je pense à nos étudiants, nos élèves ingénieurs qui sont en informatique. Et c'est aussi comment on va essayer de soutenir le développement des logiciels libres, en fait. Et le fait qu'ils adhèrent à des communautés de logiciels libres. Et au-delà de ça, de projets libres. Je pense à Wikipédia, par exemple. On a fait des ateliers de contribution à Wikipédia. Donc ça passe par plein de choses.
D'accord. Ça me paraît très clair. C'était... Et puis l'exemple de Wikipédia, je pense que quasiment tout le monde maintenant connaît cet incroyable outil qu'est Wikipédia, donc une encyclopédie collective qui est donc disponible en ligne et on comprend bien vraiment comment vous pouvez vous appuyer là-dessus pour former. Je vais pas vous paraphraser, mais je vous propose, avant de passer à la deuxième partie de notre émission, on pourra justement rentrer dans le détail du Festival des Libertés Numériques et des Journées des Libertés Numériques que vous avez toutes les deux pu évoquer. Et je vous propose donc de faire une pause musicale. Nous allons écouter La Ville par Zincaro. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
Cause Commune 93.1.
Tant que Tessie lâche les amarres, embarquer, naviguer. On vit dans la cité à deux doigts disjonctés, mais on reste cool. Après tout c'est qu'une ville colorée, 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 maquillée, ses murs, ses rues, ses allées. À l'heure des musiques on ira danser, danser. Dans ces endroits il fait pas froid, où y a pas trop de loin, où la musique s'écoule dans les verres que tu bois. Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois. Où la musique s'écoule dans les verres que tu bois. Ici ça gonfle, ici ça plombe, savoir respirer, écouter, travailler, et se laisser glisser. S'en aller des ruelles, même si elles sont belles. Pas d'argent, mais hors de la vie sans crédit, ça pue le deal, odeur de la ville, champ futile. Tenter, c'est lâcher les amarres, embarquer, naviguer. On vit dans la cité à deux doigts disjonctés, mais on reste cool. Fait pas d'argent, mais l'or de la vie sans crédit, ça pue l'odeur de la ville, champ futile. Ils veulent nous stresser, ils ont dans la tête de se presser, sans chanter c'est pas leur rêve. On s'étale même de voir que 5 tonnes d'espoir, c'est tout noir, provoque des vocations, des pros de la nation. On a de tout en tenté de faire des progrès, de drôles de projets.
Nous venons d'écouter La Ville par Zincaro, disponible sous licence libre Creative Commons, CC BY SA.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous parlons au cours de cette émission de bibliothèque et de liberté informatique avec nos deux invités, Régine Auray pour les bibliothèques universitaires de Nantes Université, co-organisatrice du festival Les Journées des Libertés Numériques, et Chloé Lalique pour la bibliothèque de l'INSA Rennes. Alors avant la pause, voilà, nous avions commencé à évoquer deux événements importants hein, autour des libertés numériques. D'abord le Festival des Libertés Numériques qui a été lancé par l'INSA Rennes, qui a été arrêté après trois éditions, qui a commencé en 2018. Et puis, prenant le relais quelque part, part, on verra comment ça a pu se passer, les Journées des Libertés Numériques, coordonnées par les bibliothèques universitaires de Nantes Université. Et on attend la troisième édition en 2023. Et je vais rappeler qu'il me semble qu'il est possible, jusqu'au 28 octobre, de proposer des conférences ou des propositions, en tout cas de participation à cet événement. Tu confirmes la date, juste Régine, du 28
oui.
octobre ?
Oui, oui, l'appel à participation peut nous être envoyé jusqu'au 28 octobre. Après, si nous en recevons début novembre, on les regardera aussi.
D'accord, on va revenir en détail sur cette question, mais je vous propose finalement de prendre la chronologie dans l'ordre. Si j'ai bien compris, en 2018, il y avait cette idée l'INSA à Rennes a lancé un festival des libertés numériques. Chloé, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu l'histoire, comment cette idée est venue et comment elle s'est organisée, manifestée?
Oui, je peux. Alors, il faut que je remette le nez dans mes chiffres parce que, effectivement, en 2018, on a lancé le Festival des Libertés Numériques, mais c'était déjà la suite de quelque chose qu'on avait développé à l'INSA avec, au début tout seul, et ensuite avec l'Université de Rennes, et puis avec l'association Actux, qui est l'association de promotion du logiciel libre à Rennes. Et donc, depuis 2015, on organisait des crypto-parties. Crypto-parties, c'est des événements pour former et informer sur la question de la protection de la vie privée et sur la préservation des libertés. Et en gros, on avait lancé ça avec des collègues qui travaillaient à l'INSA, des enseignants-chercheurs, des doctorants. Et puis, c'était conférence, atelier, et c'était sur une journée. On avait aussi, justement, install party, c'était dans ce cadre-là. Donc, des moments où on peut venir installer, apprendre à installer Linux sur son ordinateur, par exemple. Et donc, ça, on l'a fait pendant 3 ans à la Bibli INSA. Et puis, en 2018, on a eu l'envie de grossir et donc là, de travailler avec encore d'autres personnes. Donc, on a élargi nos partenaires, en fait. On a travaillé avec l'Université Rennes 2, avec Sciences Po, avec la ville de Rennes, avec la ville de Saint-Malo, enfin bref, plein de partenaires, hors monde académique aussi, et des partenaires, on va dire, plus militants, du monde associatif, notamment, par exemple, Actux, je disais, Nothing to Hide, qui est une association qui forme des journalistes aux questions de protection de la vie privée. Et donc ça, au fur et à mesure des années, on a élargi, on a grossi, surtout le Grand Ouest. On a été jusqu'en 2020 avec jusqu'à une centaine d'événements programmés, surtout principalement dans des bibliothèques tout type, et puis avec une grosse majorité dans le Grand Ouest, et puis un petit peu, alors on avait quand même quelques événements, par exemple à Lyon, ou alors à Paris, mais c'était quand même plutôt ciblé Grand Ouest. Et donc on a quand même bien essaimé jusqu'à Nantes. Et donc là, je fais le pont, j'ai résumé très, très rapidement, mais je pense qu'on avait un truc de vouloir diffuser la philosophie qui était partagée par ailleurs, mais de se dire, on est capable de le faire en bibliothèque, c'est un lieu pour ça, c'est un lieu où on peut former aux questions des libertés numériques et de protection de la vie privée. Et c'est un lieu important aussi parce que il y a des postures professionnelles de ne pas surveiller les gens, d'être dans une posture de faciliter l'accès à l'information, de lutte contre l'autocensure. Moi, dans ce cadre-là, j'ai notamment organisé des journées d'études, je suis venue faire une intervention à Passage en Seine, enfin j'ai été beaucoup sollicitée dans plein de lieux comme ça, militants et académiques. Et du coup, nous en 2020, on était un groupe qui organisait ça, on était des bibliothécaires, il y avait des gens plutôt du monde associatif, il y avait des doctorants, et puis on est arrivé au bout, quoi. C'est-à-dire que c'était beaucoup de travail, c'était pas forcément un énorme soutien financier de la part de l'INSA, qui portait déjà beaucoup, et j'ai envie de dire... on ne pouvait pas aller plus loin. Et donc, du coup, financier et en moyens humains. Et du coup, on est arrivé au bout et on a arrêté. C'est-à-dire 2020 était notre dernière année. Puis après, il y a eu le Covid et voilà, c'est tombé, entre guillemets, un peu à pic. Mais il n'y aura plus de festival des libertés numériques. Mais du coup, voilà, derrière, ça avait tellement bien essaimé à Nantes que voilà, ça continuait à germer à Nantes. Donc là, je passe la parole à Régine.
En fait, au cours des années 2018, 2019 et 2020, il y a eu une conjonction en fait, d'événements très très favorables. À Nantes, on commençait à s'intéresser de près à la culture numérique, à tous ces outils, ces usages numériques qui en fait changent nos comportements, nos manières de penser, nos valeurs, nos relations aux autres. Donc on regardait ça de près du côté des bibliothécaires. On a fait une journée d'études là-dessus destinée aux bibliothécaires de Nantes. Et puis nos collègues de la bibliothèque universitaire de La Roche-sur-Yon organisaient déjà des journées du numérique sur leur campus avec les étudiants, les enseignants-chercheurs, mais aussi d'autres personnes localement ou régionalement, afin de montrer comment, dans la pédagogie et dans la recherche, on utilisait le numérique pour créer des choses ou ou faire avancer la résolution de certains problèmes. Donc on était dans ce bouillonnement et un jour, Chloé m'a appelé et m'a dit « Franchement, là, il faudrait que vous fassiez quelque chose à Nantes, il faudrait que vous participiez au Festival des libertés numériques ». Et c'est comme ça que tout a commencé, en fait. Donc Chloé a dû m'appeler en 2019, juste après la journée d'études. Et quand j'ai pris connaissance du programme du FLDLN, j'ai dit « Ok, oui, il faut absolument qu'on participe à ça ». Ça correspondait tout à fait à notre axe de travail et de vue. Donc nous avons participé à l'édition de 2020. Ça s'est très bien passé, on a eu une quinzaine d'événements, vraiment très divers et variés, qui allaient de la conférence sur la protection des données privées jusqu'à une install party, effectivement, ou un repair café pour réparer, pour mettre du logiciel libre sur ces machines. Nous avons appris avec effroi en 2020 que le festival s'arrêtait. Et là, nous nous sommes dit à Nantes qu'on ne pouvait pas s'arrêter comme ça. C'était trop bien. Le festival était trop bien. C'était formidable. En plus, cette participation régionale, même un peu plus, hein, c'était vraiment motivant. Donc, nous avons décidé de créer les Journées des libertés numériques. Mais à Nantes, à La Roche-sur-Yon et à Saint-Nazaire, nous n'avions pas d'ambition nationale comme le Festival des libertés numériques. Et donc, on a creuser la question. On a eu le soutien de nos institutions universitaires, de la direction de la bibliothèque universitaire, et on a commencé à chercher des subventions, des personnes qui pourraient nous aider à travailler et à mettre ce projet en place.
D'accord. Donc la journée, donc en gros, j'entends bien, la principale différence, elle est plus sur l'échelle qui a été voulue pour les Journées des libertés numériques, donc une échelle plus locale par rapport au Festival des libertés numériques qui a été pensé dans une dimension plus nationale comme un méta-événement quelque part. Sinon, c'est plus sensiblement les mêmes objectifs, les mêmes publics ciblés, les mêmes typologies d'événements.
Exactement, c'est exactement la même chose. Notre ambition est moindre pour l'instant parce que nous avons moins de recul aussi que nos collègues de Rennes. Donc il nous faut aussi du temps, une espèce de temporalité là, et de compétences aussi à acquérir de notre côté pour qu'on pose vraiment l'événement, sachant qu'en 2021, la première édition a été complètement tronquée à cause de la crise sanitaire. Donc la première édition n'en a pas vraiment été une en 2021. En 2022, cette année, cette deuxième édition était en fait notre première édition qui s'est passée complètement et de manière très intéressante. Donc maintenant, nous sommes prêts à poursuivre les éditions sur plusieurs années et peut-être à étendre nos partenariats sur un territoire plus large. Nous verrons. Mais en tout cas, nous avons développé des partenariats locaux aussi, ce qui était important pour nous.
Et les événements, du coup, ils ont lieu dans les bibliothèques universitaires et les bibliothèques où c'est, dans divers endroits sur la région?
Alors, c'est effectivement dans divers endroits dans la région. Il y a des choses, bien sûr, qui se passent en bibliothèque universitaire, mais il y a aussi des lieux qui sont investis à Nantes et à La Roche-sur-Yon. Notamment La Roche-sur-Yon, je citerai le théâtre, la scène nationale Le Grand Air. Il y a aussi le cinéma Le Concorde, dans lesquels on peut prévoir des événements. À Nantes, il y a un lieu emblématique qui s'appelle la Halle 6, dans le quartier de la Création, au centre-ville. Il peut y avoir Stéréolux, qui est une salle de spectacle, enfin, un lieu en tout cas de création autour de la culture numérique. Donc ça peut être de la musique, du théâtre et autre chose. Voilà, on essaye aussi de sortir et d'aller sur le territoire, bien sûr, à la rencontre des Nantais et de tous ceux qui seraient intéressés pour nous.
D'accord. Alors avant peut-être de rentrer un petit peu dans les détails de l'édition 2023, qui aura donc lieu, si j'en crois mes notes, en mars et avril, j'aimerais demander à Chloé quelle importance a pu avoir pour toi cette prise de relais, puisque j'imagine qu'on a investi autant de temps dans la création et la construction d'un festival, et parfois c'est bien aussi de savoir conclure un effort quand on voit qu'on est au bout et que ça ne convient plus, mais j'imagine que ça doit être très satisfaisant de voir que ça peut essaimer de cette manière-là.
Ah bah oui, c'est très satisfaisant. Après, j'ai pas l'impression d'avoir tant que ça évangélisé mes collègues, si je reprends l'expression que je ne voulais pas utiliser. C'est-à-dire que je pense derrière, nous on a donné la possibilité à des personnes, je pense, de se sentir légitimes ou de se lancer dans l'organisation de quelque chose. Et on a aussi lancé une liste de diffusion à cette époque qui s'appelle CryptoBib, et qui ne fonctionne plus énormément aujourd'hui, mais qui a eu son heure d'utilité et de, je vais dire de gloire, mais plutôt de forte utilité. C'est-à-dire que à plein de moments, on sait que c'est important de traiter ces sujets-là en bibliothèque. On ne se sent pas bon techniquement, pas assez bon, pas assez doué. Et du coup, nous, on voulait aussi essayer de débloquer ça, d'accompagner les collègues sur ça. Je ne sais pas si c'est ce qui s'est passé vraiment à Nantes, mais moi, ce que je trouve super, c'est que ça ait continué pas très loin de chez nous et que potentiellement, je peux venir voir des événements des JDLN, du coup. Et derrière, il y a quand même eu un groupe de personnes qui a voulu continuer le Festival des libertés numériques et ça n'a encore rien donné, je pense, à cause de la crise sanitaire. Et puis, du coup, les gens se sont perdus quelque part aussi de vue, quoi. Mais oui, c'est très satisfaisant, même si moi-même, j'étais très triste que ça s'arrête, d'avoir mis de l'énergie dans un projet qui finit par s'arrêter. Voilà, c'est toujours un peu triste aussi pour soi, mais moi, je continue autrement et c'est pas grave, en fait. Et je suis contente d'avoir pu dire un relais quelque part. C'est super, quoi.
Et ça a produit des effets. C'est pas tout ce que vous avez fait a produit des effets. Il y a un sens, puisque voilà, ça émule et ça a pu avoir des impacts sur les gens, donc je pense qu'il ne faut jamais se dire que ça n'a été pour rien, en tout cas. C'est toujours là.
Oui, bien sûr, oui.
Alors Régine, donc nous parlons, donc là il y a une préparation du JDLN, donc les Journées des Libertés Numériques, donc qui sont en train, l'édition 2023, donc j'imagine que vous êtes au cœur de l'organisation, parce que c'est un événement qui paraissait important en termes d'organisation. Voilà, donc des questions assez classiques, est-ce qu'il y a un thème spécifique pour cette nouvelle édition, des évolutions par rapport à l'édition 2022 ? Peut-être nous rappeler les dates voilà, ou les types d'activités qu'il s'agit de proposer.
Pour les JDLN 2023, elles auront lieu du 1er mars au 5 ou 6 avril 2023. On a resserré un petit peu le calendrier. Il n'y a pas de thème particulier. Nous acceptons tout projet de façon très large, très souple. Il y a un comité opérationnel qui s'appelle le comité Tempête de cerveau qui recueille en fait les réponses à l'appel à participation. Et nous étudions ensemble l'intérêt, la faisabilité de chaque projet et ensuite nous l'inscrivons dans le programme. Donc pour être précis, il y a deux appels à participation pour l'année prochaine, donc ça c'est une évolution. Un appel à participation destiné aux associations étudiantes de l'université, donc c'est nouveau. Donc nous avons déjà deux retours là, et puis un appel à participation classique, hein, celui qui a été utilisé auparavant pour toute personne contributrice qui serait intéressé. Ensuite, bien sûr, nous travaillons aussi avec un comité de pilotage qui, lui, regarde aussi si tout se passe bien et si nous restons aussi dans les axes de réflexion et de travail de l'université et qui nous conseille. Donc, ce comité de pilotage réunit la vice-présidente culture à l'université, le vice-président du numérique, le directeur de la bibliothèque universitaire, une personne responsable d'un département des services au public, notre responsable com, et puis Sandrine Laurent, la responsable de la BU de La Roche-sur-Yon, et moi-même. Donc la structure est bien ancrée maintenant. Chaque année, dans les JDLN, il y a un événement phare, en plus de toutes les animations qui sont proposées. Donc l'année dernière, c'était la venue de Alain Damasio, écrivain de science-fiction bien connu maintenant, qui a animé deux tables rondes et deux concerts sur le thème de la furtivité numérique. Donc ça a été très apprécié. On a eu à peu près 35 animations, 30 intervenants et à peu près 1300 personnes présentes. Sans compter les personnes qui ont pu regarder aussi les captations vidéo ou les retransmissions en direct aussi de certains événements. Pour l'édition 2023, on a reçu à peu près 25 réponses à l'appel à participation et on essaye de développer des partenariats, notamment avec la Bibliothèque municipale de Nantes. Nous allons essayer de coproduire un événement, alors on ne sait pas encore lequel, on est en relation. Et cet événement pourrait aussi se placer en septembre 2023 lors de la Dante Digital Week, qui est un autre festival aussi dédié au numérique, qui a les mêmes valeurs que les JDLN. Donc nous pourrions nous placer aussi dans ce festival. Cette année, l'événement phare, ce sera la venue de François Saltiel, qui est un auteur, un journaliste, connu sur Arte, notamment. Il était dans l'émission de 28 minutes d'Elisabeth Quin. Et il a une émission maintenant sur France Culture qui s'appelle Le meilleur des mondes et qui traite en fait de nos vies numériques. Donc il a accepté de venir pour animer trois tables rondes et une conférence interactive. Et l'une des tables rondes est très importante pour nous cette année, puisqu'elle réunira Laurence Lessig, qui a accepté d'être en visio depuis les États-Unis avec nous. Donc tout le monde connaît, hein, qui est le fondateur de l'organisation des Creative Commons.
Je ne sais pas si tout le monde le connaît, mais c'est effectivement une référence, on va dire, sur les enjeux politiques et légaux autour du code informatique, notamment, parce qu'il a écrit un texte très connu qui s'appelle Code is law, le code fait loi, enfin, est loi. Donc c'est impressionnant, que c'est super qu'il ait accepté de participer à distance. Oui.
On est vraiment, très très contente avec Sandrine Laurent de cette acceptation. Donc il sera là, il y aura Karine Bernot, qui est la présidente de l'Université de Nantes, qui est professeur en droit civil et en propriété intellectuelle. Donc c'est aussi un honneur. Il y aura Benjamin Bayard, qui est connu aussi, qui est le fondateur de la Quadrature du Net. Et donc cette table ronde sera animée aussi par François Saltière. Donc vraiment, on est très très contents.
Des noms, effectivement, qui poussent à venir, qui donnent envie d'écouter. Et ce sera accessible à distance? Enfin, on pourra suivre à distance?
Exactement, ou ça... oui. Ce sera accessible à distance. Il y aura à la fois une captation vidéo, donc on pourra regarder quand on veut. Et il y aura une diffusion en direct sur la web TV de l'université.
Super, bah, un point extrêmement complet. Tu as devancé toutes les questions subsidiaires que je m'étais notées, donc c'est parfait. Et on arrive vers la fin de l'émission. Je vais ouvrir une parenthèse et m'adresser à Chloé, parce qu'en préparant l'émission avec mes collègues, d'ailleurs, nous avons écouté un interview que tu avais fait pour un podcast qui s'appelle Res Numérica. On mettra le lien dans la page web de l'émission, une interview que j'ai trouvée personnellement très intéressante. Et tu abordes une question, si tu veux bien, en deux, trois minutes te pencher un peu dessus, c'est-à-dire l'articulation entre les problématiques féministes dans le cadre militant des libristes et des libertés numériques. Et tu semblais dire que voilà, qu'il y avait encore des difficultés à articuler ces deux luttes qui nous semblent, nous, assez essentielles, justement. On veut bien voir ta lecture en tant que féministe et libriste.
Oui.
Désolée, oui, ça tombe un peu, voilà.
Non, c'est super, d'en parler.
Ça me semble important d'en parler.
Ça fait partie des enjeux que je trouve hyper importants d'articuler ensemble, évidemment. C'était pas si évident que ça pour moi quand j'ai commencé le Festival des libertés numériques et me préoccuper des questions des libertés numériques. Et puis, au fur et à mesure des années, c'est devenu une évidence que les libertés numériques ne sont pas que numériques et qu'on parle de liberté au sens large et du coup d'égalité aussi au sens large. Et c'est vrai que se frotter au monde libriste, bon, bah, c'est se frotter à un environnement où les questions féministes, alors elles sont là, elles arrivent et elles y sont à plein d'endroits. Moi, il y a un moment où j'ai senti aussi qu'elles n'étaient pas assez développées dans le groupe dans lequel je travaillais pour pouvoir continuer sereinement aussi à travailler ces questions-là, là où j'étais, quoi. Enfin, c'était vraiment un truc, un moment de comment moi je me suis sentie à un endroit. Par contre, derrière, il y a pas mal d'initiatives qui sont lancées. Enfin, là, je m'apprêtais à citer le hackerspace du Reset et puis je me suis souvenu qu'en fait, ils ont un petit peu arrêté leur activité, mais le hackerspace féministe qui était à Paris, qu'on avait fait venir d'ailleurs à l'INSA sur des ateliers en non-mixité, ça n'avait pas été facile de faire ça, parce que c'est aussi un moment où c'était aussi... Bon, à plein d'endroits, la non-mixité, c'est pas facile de la faire valoir, même si on sait que c'est très important. Il y a aussi des associations comme Échappe qui travaillent la question des cyberviolences sexistes. Par exemple, des associations qui montent des instances mastodontes. Enfin là, c'est peut-être un peu technique, mais je sais que ça se travaille, que c'est travaillé à plein d'endroits dans le milieu libriste. Juste moi, j'étais pas à ces endroits-là et peut-être ça m'a pas suffi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai une vision beaucoup plus large, enfin, de quand j'organise des événements là dans ma structure, j'organise plus spécifiquement d'événements autour des libertés numériques, sauf dans ma fonction de délégué à la protection des données. Mais derrière, c'est vraiment une perspective politique plus large de où le logiciel libre en fait partie, mais c'est pas non plus, on va dire, c'est un moyen, c'est pas une fin. Voilà, c'était plus ça, j'en suis arrivée à ça. Alors que peut-être à un moment j'étais plus dans c'est la fin et c'est un moyen. soit dans ma réflexion, en tout cas, c'est arrivé comme ça. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question.
Très impressionnant, en 2 minutes à peine, d'avoir aussi bien résumé. Et on invite, parce que Fred me dit que c'est même l'interview sur Res Numérica qui nous a donné envie de traiter le sujet d'aujourd'hui. Et donc vraiment, voilà, Chloé a eu plus de temps et plus de tranquillité pour répondre à la question que je viens d'évoquer. Je vous invite donc à aller découvrir cette interview. On arrive en fin d'émission et je vous propose chacune, en 1 à 2 minutes, peut-être de nous évoquer ce qui sont pour vous les points forts à retenir de notre échange. Ou si vous souhaitez partir complètement ailleurs, finalement, cette minute est à vous. Bah, Chloé, puisque tu parlais, je te laisse la parole.
Ah, merci. Bah, du coup, j'avais pas préparé alors qu'on m'avait dit qu'il faudrait bien me préparer. pour les points forts, pour moi, les bibliothèques sont des lieux très importants dans notre société. C'est des lieux qu'il faut maintenir, c'est des lieux qu'il faut nourrir. Il faut aller visiter les bibliothèques et s'en saisir. De l'autre côté, petit message aux bibliothécaires, voilà, faut ouvrir et continuer ce travail de facilitation autour de tous ces enjeux des communs, en fait, au sens large. Voilà, je fais pas du tout 2 minutes, mais je ne sais pas quoi dire de ce que j'ai déjà dit.
C'est très bien, merci. Régine Auray.
Eh bien, évidemment, je dirais la même chose que Chloé. Il faut venir en bibliothèque, de quelque nature qu'elle soit. Il faut aller rencontrer des bibliothécaires qui sont déjà formidables et qui sont très en phase avec ce qui se passe dans la société, y compris du côté des outils numériques. Voilà, il faut partager avec elles, il faut monter des projets avec elles ou avec eux. Voilà, il se passe plein de choses dans cette sphère-là. Elle se transforme progressivement en espace de tiers-lieu, donc débat, échange, création, etc. Donc ça, c'est très très important comme mouvement aussi. Puis moi, je dirais respect pour les personnes qui continuent à travailler sur la création d'outils libres. Pour moi, c'est créer et faire vivre des outils informatiques ou numériques libres. C'est mettre des connaissances en commun et des compétences en commun au sein d'une communauté pour le bien commun. Donc ça me rappelle un petit peu ce qu'on fait en bibliothèque aussi.
Très belle conclusion, merci beaucoup. Merci beaucoup donc à Régine Auray, responsable des missions culture et diffusion des savoirs et accessibilité pour tous pour les bibliothèques universitaires de Nantes Université, et à Chloé Lélic, responsable de la bibliothèque et déléguée à la protection des données à l'INSARED. Merci beaucoup à toutes les deux et je vous souhaite une excellente fin de journée.
Merci.
Merci beaucoup.
Nous allons maintenant faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous entendrons la chronique de Marie-Odile Morandi sur logiciel libre et commun numérique. Et avant cela, nous allons écouter Restabilized par PunchTech. Nous avions déjà transmis le morceau Destabilized du même artiste dans une précédente émission. Nous bouclons donc la boucle aujourd'hui.
Cause commune 93.1.
Nous venons d'écouter Restabilized par Punchtech, disponible sous licence libre Creative Commons CC BY, que nous avons légèrement écourté pour avoir le temps de faire nos annonces de fin d'émission.
Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavoue.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
Je suis Étienne Gonu de l'April et nous allons passer au sujet suivant. Nous allons poursuivre avec la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi sur le thème « Logiciels libres et communs numériques ». Il s'agit d'une rediffusion d'une chronique diffusée dans l'émission Libre à vous du 28 juin 2022. Je vous propose donc d'écouter ce sujet et on se retrouve juste après sur la radio Cause Commune.
Nous allons commencer par la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de Marie-Odile Morandi. Marie-Odile est animatrice du groupe Transcription de l'April et administratrice de l'association. Elle a rédigé la chronique qui est mise en voix par Laure-Élise Déniel, bénévole à l'April. Le thème du jour, logiciel libre et commun numérique.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le thème du sujet principal de l'émission Libre à vous du mardi 17 mai était les communs numériques. Claire Brosseau, sociologue, facilitatrice des communs, et Sébastien Broca, maître de conférences en sciences de l'information et de la communication, auteur de l'ouvrage « Utopie du logiciel libre » paru en novembre 2013, étaient les invités de Laurent Costi et d'Étienne Gonu. Pour cette dernière chronique, « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » de la saison 5 de votre émission préférée, auditeurs et auditrices, nous avons choisi de rappeler certains éléments de cette transcription pour vous encourager à la lire ou, si vous l'avez déjà fait, à la relire, l'intitulant « Logiciels libres et communs numériques ». Laurent Costi, vice-président de l'April et animateur ponctuel de l'émission, rappelle que la notion de commun, qui a ressurgi depuis les années 2000, n'est pas toujours simple à appréhender au-delà de la seule question du numérique. Des précisions sont apportées par Claire Brosseau. Les biens, en économie, sont des ensembles non exclusifs de ressources qui peuvent être partagées, mais ces ressources peuvent s'épuiser. Les biens publics sont les ressources comme l'air, l'eau, la terre, qui, elles aussi, ne sont pas appropriables. Bien entendu, référence est faite plusieurs fois à Elinor Ostrom, chercheuse américaine, prix Nobel d'économie en 2009. Pour elle, les communs peuvent être utilisés par tous, mais les ressources en jeu s'épuisent. Concernant les communs de la connaissance et du numérique, la situation est différente. Le savoir, la connaissance sont des ressources qui s'amplifient et se développent quand on les utilise. Pour qu'il y ait commun, il faut traditionnellement trois piliers. Une ressource, une communauté et des règles d'accès et de partage de cette ressource. La ressource peut être matérielle, une terre, un habitat, une rivière, ou immatérielle, intangible, les communs de la connaissance, les communs informationnels, les communs culturels. Des humains formant une communauté gèrent ensemble, en commun, cette ressource, qui risque de s'épuiser afin de la faire perdurer. Des règles d'usage, une gouvernance collective est mise en place par cette communauté qui est en relation avec son écosystème. Le statut de commun d'une ressource dépend toujours d'une décision humaine, de la décision d'une personne ou d'un collectif de considérer ce bien comme un commun, d'en faire une ressource partagée. C'est valable pour les biens matériels ou physiques et pour les biens informationnels. Au début des années 80, l'information et la connaissance ont été de plus en plus privatisées, soumises à des droits exclusifs de copyright aux États-Unis, empêchant par exemple les pratiques communautaires de partage des développeurs qui coproduisaient les logiciels. Le mouvement du logiciel libre est créé en 1983 et 1984 par Richard Stallman. C'est un des premiers mouvements à réagir à cette enclosure et à mettre en place une véritable alternative contre les restrictions posées par la propriété intellectuelle pour permettre l'accès ouvert et le partage des ressources informationnelles. Richard Stallman défend le droit fondamental des utilisateurs à accéder au code source. Il crée les licences libres, dont la première, la GNU-GPL, va octroyer des libertés. Les quatre libertés, exécution, copie, modification et redistribution aussi bien de la version originale que de celle qui est modifiée, sont au cœur du logiciel libre qui joue un rôle précurseur. D'autres mouvements suivront, dont le dénominateur commun est le fait de résister aux excès de la propriété intellectuelle afin de s'opposer au mouvement de privatisation de l'information. Création des licences Creative Commons, promotion du libre accès aux publications scientifiques, mais aussi défense des semences paysannes contre les variétés hybrides. Peut-on qualifier les logiciels libres de communs numériques selon la définition des communs ? Demande Laurent Costi. Si ce projet de logiciel libre est mené par une seule personne, s'il n'y a pas de communauté, pas de gouvernance démocratique, la réponse est non, affirme Sébastien Broca. Cependant, de nombreux projets de logiciels libres ont un fonctionnement communautaire, auto-organisé, qui répond à la définition des communs. Donc, les logiciels libres sont souvent des communs, mais il peut y avoir des logiciels libres qui ne respectent pas vraiment les critères de définition des communs. L'ouverture des codes sources a permis de créer des œuvres de manière itérative et collaborative. Wikipédia, encyclopédie mondiale de la connaissance, naît au début des années 2000. OpenStreetMap, base libre de données géographiques, le système d'exploitation libre GNU Linux, les logiciels libres comme Firefox, les œuvres sous Creative Commons sont des communs numériques qu'on trouve sur Internet, créés grâce à la contribution de milliers de personnes qui permettent à ces ressources de croître et non de se réduire. La connaissance, une idée, des biens informationnels ne courent pas le risque de s'épuiser lorsqu'on les consomme. On peut les partager à l'infini, mais on peut quand même les privatiser, on peut faire du logiciel propriétaire. La présence d'une licence libre ne fait pas forcément d'un logiciel un commun. Un logiciel libre peut être entièrement géré par une entreprise privée, sans communauté. Pour Sébastien Broca, la différence entre libre et open source est philosophique. C'est une différence d'approche, de positionnement. Le logiciel libre est un mouvement social qui met au premier plan une exigence éthique. L'open source va se promouvoir avec des arguments un peu plus pragmatiques, expliquant que les logiciels sont meilleurs, qu'ils permettent des méthodes de développement ouvertes efficaces, des économies d'argent pour les entreprises. Il remarque qu'un nouveau clivage s'est mis en place depuis quelques années, avec d'un côté le logiciel libre, canal historique et ses quatre libertés, et de l'autre, une position moins rigoriste sur ses droits fondamentaux. Apparaissent ainsi des licences qui vont avoir un objectif plutôt économique de réciprocité. Demande de participation au développement du code source du logiciel et, à défaut, demande de versement d'une somme d'argent. Plus récemment, une nouvelle génération arrive qui porte des combats, des valeurs ou des exigences qui n'étaient peut-être pas assez prises en compte par la génération précédente, notamment celle des pères fondateurs du logiciel libre. Les thématiques concernant en particulier les inégalités de genre ont acquis de l'importance, ont questionné et fait réfléchir un certain nombre de communautés qui se sont aperçues de l'homogénéité sociale qui régnait, de la domination écrasante des hommes assez technophiles, blancs, favorisés socialement, accusant parfois des comportements machistes ou misogynes. Des questions de gouvernance démocratique se posent. Comment s'auto-organiser ? Comment faire pour mener un projet communautaire respectueux ? Le mouvement des communs a ainsi pu ouvrir le monde du libre à des thèmes qui provenaient de mondes sociaux assez différents, permettant une gouvernance plus collective au sein de certains projets de logiciels libres. Le logiciel libre est essentiel dans le fonctionnement d'Internet. 90% des serveurs tournent avec GNU Linux. On a constaté une forme de récupération ou d'intégration du libre par les GAFAM, dont le monopole ne s'est, semble-t-il, pas affaibli, ainsi qu'une forme d'appropriation par l'industrie, qu'on pourrait dire culturelle. Les éléments de langage, le vocabulaire de la communauté, collaboration, ouverture, partage, ont été repris, peut-être de manière hypocrite, par les grands acteurs du numérique. Parce qu'il y a des enjeux de souveraineté, des données par rapport à ces GAFAM, mais aussi des enjeux d'innovation collaborative, on constate une appropriation assez récente des communs numériques par certaines institutions avec volonté de les favoriser. On peut citer l'Agence nationale de la cohésion des territoires, ainsi que l'IGN, l'Institut géographique national, qui ont choisi d'utiliser désormais OpenStreetMap. Au cours du temps, diverses transcriptions concernant ces sujets ont été publiées. Le site Libre à lire met à disposition un moteur de recherche qui permet aux personnes intéressées, par exemple en insérant le terme « commun », de les retrouver. Une attention particulière peut être réservée à la transcription d'une conférence donnée en 2019 par Lionel Morel, bibliothécaire, juriste, expert du droit d'auteur et des licences, intitulée « Faire atterrir les communs numériques », c'est-à-dire sur un sol terrestre. Les communs de la connaissance ont une dimension matérielle et les communs matériels sont aussi des communs de la connaissance. Lionel Morel cite l'exemple d'une bibliothèque. Les idées sont dans les livres qui sont des objets. Eux-mêmes sont dans une bibliothèque qui est l'infrastructure. Sébastien Broca prend l'exemple du Fab Lab, le laboratoire de fabrication, qui a une dimension matérielle, qui existe dans le tissu urbain, dont l'activité est fondée sur beaucoup de communs numériques, particulièrement au niveau logiciel. Il est donc difficile de séparer ces éléments qui forment un agencement. Le libre ne concerne pas seulement les informaticiens ou les hackers, il s'inscrit dans un projet politique plus vaste, plus global, véritable alternative, nous explique Claire Brosseau, à la mondialisation néolibérale telle qu'elle a été conduite depuis quelques décennies. Le logiciel libre n'a pas vraiment eu besoin des communs pour exister, pour progresser. Il a réussi à maintenir l'ouverture de certaines ressources informationnelles et nous pouvons dire que c'est un réel succès. Certes, on s'est aussi aperçu que l'informatique, même quand il est libre, peut être critiquée, remise en cause par sa participation à une numérisation du monde qui a un effet positif, mais aussi des effets néfastes, notamment du point de vue écologique. Les communs se généralisent. Ce sont des modèles d'organisation sociale qui sont de plus en plus efficients dans la société. Les acteurs des communs se disent à l'interface public-privé, de manière à créer une troisième voie afin d'avoir la main sur la gestion et l'allocation des ressources à l'échelle de petites communautés, mais aussi à l'échelle de grandes communautés quand il s'agit des communs de la connaissance. Depuis les années 2020, on voit s'institutionnaliser la notion de commun dans divers domaines, a fortiori dans le numérique. Les changements à accomplir en matière écologique, en matière sociale, sont considérables et les communs portent une vraie alternative. Pour Claire Brosseau, il est nécessaire d'articuler le développement des communs avec le soutien des acteurs publics et de l'État, cependant, sans que les communs y perdent leur spécificité. C'est une question majeure, voire le défi des prochaines années, sans oublier, comme nous le rappelle Lionel Morel, l'imbrication des communs numériques à la technostructure physique, c'est-à-dire leur aspect matériel. Puissent les transcriptions que nous vous suggérons de relire, vous trouverez bien entendu les liens sur la page des références de l'émission, permettre d'aider à la compréhension des communs en évitant les simplifications qui entraînent quelquefois des déformations. Certes, tout cela est bien compliqué, mais fort intéressant, voire passionnant par son actualité.
Eh bien, nous venons d'écouter la chronique de Marie-Odile Morandi, mise en voix par Laure-Élise Déniel. Donc, le thème du jour, c'est logiciel libre et commun numérique. Vous pourrez retrouver les transcriptions en référence sur le site libreavoue.org. Et le site dédié aux transcriptions, c'est librealire.org. Vous avez près de 900 transcriptions. Donc, si vous voulez passer un été studieux en lisant, vous pouvez vous connecter sur libreavoue.org, librealire.org. Excusez-moi, et retrouver toutes les transcriptions.
Nous sommes de retour en direct sur la radio Cause Commune et nous allons terminer par quelques annonces. Alors, une annonce en lien avec le sujet principal de l'émission du jour sur la bibliothèque et liberté numérique. NumaHop, une plateforme mutualisée pour la gestion des chaînes de numérisation, est un outil donc qui existe pour gérer les chaînes de numérisation. Excusez-moi, j'essaie de faire vite et je m'embrouille. En tout cas, voilà, il y a une journée professionnelle NumaHop qui est organisée le 24 novembre 2022 à Paris-Saclay. Nous vous partagerons un lien pour s'y inscrire. Un apéro à prix aura également lieu le jeudi 20 octobre 2022 à partir de 19h à l'atelier des pigistes à Montpellier. Vous pouvez vous y inscrire également pour faciliter la logistique. Elle n'est bien sûr pas nécessaire pour participer. Reprise également des soirées de contribution au libre organisées par l'association Paris Nux qui reprend le jeudi 20 octobre à 19h30 jusqu'à 22h30. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission. J, Chloé Lely, Régine Auré, Marie-Odile Morandi, aux manettes de la régie aujourd'hui Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts Samuel Aubert, Élodie Daniel Giraudin, Languin. Merci également à Quentin Gibault, bénévole à l'April, qui découpe les podcasts complets en podcasts individuels par sujet, et à Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la radio. Et enfin, merci à Isabelle Avani qui a préparé cette émission. Vous pouvez, n'hésitez pas à parler cette émission le plus possible autour de vous, et puis nous partager avec nous ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration en nous contactant à contact@libreavoue.org. Retrouve bien sûr sur libreavoue.org toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 25 octobre 2022 à 15h30. Notre sujet principal portera sur le Media Lab de Sciences Po, un laboratoire interdisciplinaire qui interroge la place prise par les technologies numériques dans nos sociétés. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 25 octobre et d'ici là, portez-vous bien.